Florence Omna, bonsoir, bienvenue à la librairie Mola. J'ai le plaisir de m'entretenir avec vous à l'occasion d'une journée que la librairie Mola a consacrée à George Orwell. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Monde après l'avoir été pour Libération et Le Nouvel Observateur. Et je tiens à souligner que vous avez au moins deux points communs avec George Orwell. Vous avez tous les deux...
Je suis curieuse.
Ah, voilà, écoutez bien. Vous avez tous les deux pratiqué le journalisme d'immersion et vous avez tous les deux transcrit et transfiguré cette expérience dans des livres. Ce fut pour...
Je suis déçue.
C'est que ça, hein, c'est que ça. Oui, oui, non, mais on pourra faire mieux, là. On a une heure pour monter en puissance. Hein. Pas de grandes révélations, pas de grands scoops, ça va venir. Pour Orwell, ce fut son premier livre, Dans la Dèche, à Paris et à Londres, paru en 1933, que j'ai récemment republié dans la collection Folio Classique chez Gallimard. Et pour vous, ce fut Le Quai de Ouistreham, paru en 2010. Cette proximité de vos méthodes d'investigation et d'écriture à 80 ans d'écart et d'une langue à l'autre me donne l'occasion de vous interroger sur votre pratique du métier de journaliste, sur votre conception de l'enquête et sur votre rapport aux individus, à l'altérité et au monde du travail. Alors commençons par l'objet de la quête, l'objet de l'enquête qui mènera au livre Le Quai de Ouistreham. Il s'agit donc d'une enquête en immersion durant 6 mois en 2009 à Caen. Le but que vous vous étiez donné était de décrocher un CDI. Et à ce moment-là, votre enquête allait s'arrêter avec pour seul bagage le bac et un CV vide de toute expérience. Votre objectif était de saisir ce que c'est que la crise. Je cite votre avant-propos, je suis journaliste, j'ai eu l'impression de me retrouver face à une réalité dont je ne pouvais pas rendre compte parce que je n'arrivais pas à la saisir. Les mots même m'échappaient. Rien que celui-là, la crise, me semblait tout à coup aussi dévalué que les valeurs en bourse. Alors, est-ce que vous vous êtes lancé dans cette enquête et dans ce récit parce que les mots étaient d'abord insuffisants à rendre compte du réel ?
En tout cas, bonsoir à tout le monde d'abord. Et en tout cas, mes mots à moi, oui. C'est-à-dire que je suis persuadée que des économistes, que des personnes qui sont très au fait de crise financière, etc., pourraient en parler. Mais moi, absolument pas. C'est-à-dire que je suis reporter, journaliste de terrain, et donc les mots que j'utilise, moi, ne pouvaient pas raconter la crise. Parce que, tout simplement, les mécanismes financiers, c'est pas mes compétences, etc. Donc, moi, l'idée que j'avais à ce moment-là... Mais j'ai passé un bon moment à me demander que faire face à cette crise. C'est-à-dire, souvent, vous êtes journaliste, quelque chose vous tombe dessus, et vous dites, comment faire pour l'attraper? Comment faire pour le raconter? Comment le communiquer, et c'est vraiment souvent un défi, c'est-à-dire écrire sur quelque chose qui vous est absolument étranger dans la structure, une crise économique, et à la fois qui vous impacte grandement parce que vous voyez les prix monter, parce que vous voyez des gens tomber au chômage, parce que voilà, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Et comment accommoder les deux ? Moi, c'était ça mon objectif. Et donc, je me suis... Voilà, là, alors, j'ai, à vrai dire, je vais vous faire une confidence, j'ai pas pensé à Orwell, et je ne connaissais absolument pas le Quai de Ouigham. Et d'ailleurs, quand mon éditeur a dit, j'ai trouvé un titre génial une fois que j'avais rendu le bouquin, il me dit, on va l'appeler le Quai de Ouistreham en référence au Quai de Ouigham. Et là, il y avait un blanc total au téléphone, je n'avais pas lu le Quai de Ouigham, je ne savais pas que ça existait, j'avais lu plein de choses d'Orwell, mais celui-là, absolument pas. Et donc, j'étais super gênée. Alors, je lui dis, ben, je sais pas. Elle me dit, mais si, le truc d'immersion. Moi, l'immersion, c'était, alors ça, c'est autre chose. C'était vraiment Tête de Turc de Wallraff, quoi. C'était vraiment ma génération, ce type qui s'était déguisé en Turc, qui a écrit Tête de Turc, d'ailleurs, pour raconter la condition des travailleurs turcs en Allemagne dans les années 70-80. Et donc, moi, c'était ma Bible quand j'étais en école de journalisme. Donc, je me suis pris pour Wallraff, à vrai dire, plus que pour Orwell. Mais l'idée est la même, cette idée, elle est la même. C'est-à-dire, elle est de dire comment rendre compte de ce qu'on a absolument devant les yeux. C'est-à-dire une crise économique pour les uns, du racisme en Allemagne pour les autres, le Quai de Ouigham, la condition des mineurs dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Donc, c'est à la fois, ça nous est très familier, et à la fois pas du tout. Enfin, quelle est la condition d'une femme, c'était mon cas, de 50 ans, qui n'a aucun CV, qui n'a pas travaillé depuis 30 ans, parce que c'est ce que je prétendais et ce que j'avais dit, qui revendique de n'avoir que le bac et qui cherche du boulot par temps de crise. À la fois, je me dis, ça ne doit pas être fameux, mais en fait, je n'en sais rien. Et c'est ça qui m'a passionnée, c'est-à-dire, c'est plus les choses sont familières, plus les choses sont quotidiennes, plus ces choses-là sont sous notre nez, moins on arrive à en rendre compte comme journaliste. Il y a la guerre en Ukraine. Je dis pas qu'on... c'est facile, c'est les gros titres, une bombe est tombée à Kharkiv. Voilà, ça, on sait faire, une vraie crise, des conditions comme ça. Quand je couvre, par exemple, un cyclone à Mayotte, alors on va à Mayotte, on voit les conditions, etc. Je dis pas que c'est joyeux, je dis pas que ça me fait plaisir, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, le journalisme, c'est l'attraper avec ses outils. Comment attraper la finesse du quotidien, c'est ça la grande difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut ce type de méthode, en fait, d'immersion.
Il faut une incarnation. Il faut aller vivre comme les gens, les fréquenter, essayer, du moins.
C'est un exercice,
oui,
périlleux,
oui,
et à la fois qui peut paraître choquant. Alors, je dis choquant. Moi, au départ, quand je me suis lancée, j'y suis allée de pure bonne foi. Je me suis dit, bon, c'est des gens dont on ne parle pas, dont je vais défendre la condition. Je ne vais pas leur dire que je suis journaliste, je vais me faufiler parmi eux, mais pour raconter ce qu'ils ne racontent pas forcément. Donc vous partez la fleur au fusil, si j'ose dire. C'est-à-dire vous dites, ben, quel est le problème, je le fais, entre guillemets, pour la bonne cause. En fait, la difficulté arrive chemin faisant. Et plus vous travaillez là-dessus, plus vous vous dites... Donc moi, je m'étais fixé, bien sûr, des lignes rouges, mais c'est très délicat comme type de travail. C'est-à-dire que vous cachez votre identité, vous inventez un CV. Donc c'est un exercice très complexe, en fait.
Ça pose tout de suite des questions éthiques.
Malheureusement, pour moi, pas tout de suite.
Pas tout de suite. C'est venu au milieu de...
Oui, en le faisant. C'est-à-dire, oui, que je vous dis, quand on commence à le faire, on est submergé par ce boulot-là. Et ce qu'on comprend d'abord... Si j'ose dire, c'est une ambiance. C'est-à-dire, moi, je comprends bien... Il y a une autre expérience très, très célèbre d'un dénommé Griffith, que vous avez peut-être dans la peau d'un noir, ça s'appelle. Et c'est un bouquin formidable que je vous conseille largement. Donc, c'est un blanc aux États-Unis dans les années 60 qui teint sa peau avec un procédé chimique en noir et qui raconte pendant 6 semaines la vie d'un noir dans les États qui viennent juste d'être sécessionnistes, en fait. Enfin, qui étaient où l'esclavage a été. Donc, ils sont restés ségrégationnistes pour partie. Et donc, il raconte ça. Et ce qui est très frappant dans son bouquin, et quand on le fait, c'est l'ambiance. C'est-à-dire, c'est quand vous arrivez à Pôle emploi et que le type vous regarde votre CV, lève les yeux sur vous, désespéré pour vous. C'est ce regard-là, si vous voulez, personne ne peut vous le raconter. Et donc, qui vous dites, voilà, vous êtes tout content, vous dites, voilà, alors j'ai fait... j'ai CV, je vais essayer de trouver du travail, etc. J'ai vu dans la vitrine une offre qui m'a l'air très intéressante et tout à fait pour moi, parce que je suis une battante dans une animalerie. Vous savez, j'ai eu jadis un hamster, et donc je pense avoir des compétences... Et que le type vous regarde de bas en haut et vous lâche la phrase tout bêtement, mais c'est beaucoup trop bien pour vous. Là, vous avez, c'est des rien, mais c'est cette ambiance-là qu'on ne peut rendre qu'en étant dans cette situation-là. Que vous dites, voilà, alors pourquoi vous remettez à travailler? Il est désespéré parce qu'il se dit, ça va être un dossier que je vais pas réussir à résoudre. Elle va me traîner dans les pattes sans trouver de boulot. Il me dit, pourquoi vous remettez à travailler? Il est lui-même, il se dit, pourquoi elle va pas... Voilà. Je dis, mais parce que voilà, j'étais avec un homme, il m'a lâché. Alors maintenant, je suis obligée, tout ça étant une légende, bien sûr. Il m'a lâché, donc je suis obligée de gagner ma vie, etc. Et donc, je patauge dans mes explications. Et puis, il vous re-regarde encore plus fatigué. Il vous dit, il vous a lâché pour une plus jeune, sans doute. Donc, et donc toutes ces petites phrases, les unes derrière les autres, que... Voilà, que et c'est ça qu'on n'arrive pas à attraper dans nos filet à grosses mailles de journalistes. Et c'est ces moments-là qui sont compliqués. Et donc, alors je lui dis oui pour lui faire plaisir. Donc, il me regarde et puis il relâche comme tout le monde. Alors, vous avez joué comme tout le monde. Donc, et c'est alors après, bon ben, je vois le ménage pour vous. Alors, il essaie d'emballer le truc en disant agent de surface pour pas faire trop femme de ménage. Agent de surface, alors vous dites ouais, pas emballé, et vous dites bon, enfin, en tout cas, toutes les femmes savent faire le ménage. Donc, c'est cette accumulation de petites choses que voilà qui fait que l'immersion est d'une certaine manière irremplaçable dans ce quotidien.
C'est une accumulation de clichés et de stéréotypes, et la reconduction des stéréotypes, elle est là, à l'œuvre.
Oui, et qui n'est même pas méchante, c'est le pire.
C'est le pire, oui.
Ouais. C'est qu'elle est fataliste, elle est... Voilà. Et donc, moi, c'est ça qui m'a passionnée au départ, c'est cette ambiance, ces choses, cette ère du temps, c'est ça qui vous attire au fond, j'ose pas dire... pire qu'un discours, en fait.
Ce qui me frappe aussi dans votre livre, et ça, vous le partagez également avec Orwell, c'est que vous reconnaissez le rôle du mensonge et de la dissimulation. Vous prononcez le mot « j'ai dû mentir », et Orwell le dit aussi. Donc là, il y a aussi une question éthique vis-à-vis de vous-même et psychologique qui est intéressante. Est-ce que vous étiez dans une forme de dédoublement de personnalité ? Et est-ce que ce dédoublement de personnalité pouvait être résolu, réglé par l'écriture qui venait ressaisir et vous ressaisir comme individu?
Dédoublement de personnalité, j'ai pas cette imagination là. Mais c'est sûr que ce qui m'a tenu, en fait, ce qui tient des tas de personnes dans une situation de précarité, c'est le fait que c'est ça ou rien. Donc et que c'est il faut payer le loyer, j'accepte tout ce que je peux accepter, je suis prêt à faire n'importe quoi, voilà. Et c'était ça. Et de fait, moi, c'était pour un livre, donc c'est, je ne sais pas, de payer le loyer ou d'avoir une quête aussi cruelle que celle-là. Mais en fait, la chose était, il faut que je fasse ce livre, il faut que je m'accroche à ça. Donc j'avais une espèce de peur qui me tenaillait aussi autour de ça, en disant... Je vais venir là, je viens pour raconter ses vies, et en fait, si je n'y arrive pas...
Si vous ne trouvez pas de travail, il ne se passe rien, et le livre ne s'écrit pas.
Et je ne parlerai pas d'elle, etc. Et donc, il y avait une course que je n'aurais pas l'impudeur de comparer à la leur, mais qui en tout cas rentrait en résonance avec celle-là. Et Orwell dit très souvent qu'il ne l'aurait pas fait, et c'est quelque chose que j'ai lu après avoir fait le livre, hein, puisque je ne sais pas... En disant, voilà, vous le savez, Orwell a été longtemps, enfin 5 ans en tout cas, administrateur colonial, et donc il en gardait beaucoup de culpabilité. Donc il était, il disait, mais j'ai moi-même participé à quelque chose que je ne soutiens pas, j'en ai honte, et cette culpabilité, elle fait que j'avais besoin de, j'aime pas le mot expier, mais il y avait quelque chose de ça, il le formule bien mieux, mais en tout cas c'était ça l'idée. Et donc j'en parle après avec... je travaillais à Libération à l'époque, et j'en parle. Je travaillais plus à Libération, mais je suis restée très proche de Serge Julie, qui était donc le grand patron de Libération. Et je lui raconte ça. Je lui dis, et il me dit, mais toi aussi, tu as eu besoin d'expier. Alors je lui dis, mais choqué, mais non, pas du tout.
Expier quoi?
Oui, c'est ça. Expier quoi? Et il me dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il me dit, ben, toi-même, regarde le temps que tu as passé là-bas. Tu as passé 6 mois à faire cette. Ce travail, et tu as passé 6 mois comme otage en Irak. C'est le même temps. Je lui dis oui, mais et alors? Elle me dit, mais je pense que tu ne l'aurais pas fait sans ça. Et c'est je pense assez vrai au fond, parce que une des choses qui est peut-être les plus vivaces quand vous êtes pris en otage, que vous êtes dans une situation comme celle-là, c'est la très grande culpabilité que vous ressentez vis-à-vis d'abord de vos proches. Ensuite, de votre journal, en vous disant tout, j'y suis allé, je me suis fait prendre. Ils sont tous en train de se faire du mouron pour moi, et voilà, c'est vraiment la première chose. Et j'ose pas vous dire vis-à-vis de vous tous aussi, mais vous savez que vous devenez malgré vous une affaire d'État. Et vous dites, et vous êtes là encombré de votre petite personne, tout un pays. Et il y a quelque chose comme ça. Et c'est vrai que quand je suis sortie de cette prise d'otage, on m'a dit « Ah ben Chirac va vous accueillir à l'aéroport ». Et j'étais terrifiée. Je me suis dit « Va m'engueuler, ça va être horrible ». Etc. Et je disais, non, mais j'y tiens pas du tout. Alors, mais si, il sera à la descente d'avion. Je disais, non, mais moi, je veux pas le voir. Et les gens me disaient, mais vous êtes obligés. Je me disais, c'est sûr. Et plus ils insistaient, plus je me disais, ça va être ma fête, ça va être horrible. Il va dire, bah, vous vous rendez compte dans quel état vous avez mis le pays, etc. Et donc, j'en étais malade et je suis descendue de l'avion. Et quand tout le monde disait, t'avais l'air très contente. Et en fait, j'étais très contente parce que je voyais que Chirac était content. Je me dis, ouf, déjà un truc. Et j'étais évidemment très contente de sortir. Ça va sans dire. On ressuscite. Hein, donc. Mais il y a cette culpabilité, en fait, d'être enfermé et de savoir que les vôtres, proches ou lointains, voilà, vous leur faites beaucoup de peine.
Dans le quai de Wigan, Orwell explique le projet qui a été le sien pour Dans la Dèche. Et là, il justifie les choses ainsi, donc en rappelant son expérience à Paris et à Londres, dans cette vie de clochard où il se donnait, lui, pour objet de savoir ce que c'est que vivre avec 6 francs par jour. Ouais. Et il écrit, là, dans ce sous-monde sordide et, pour tout dire, mortellement ennuyeux, qui est celui des vagabonds, j'avais un sentiment de libération, d'aventure, qui paraît absurde avec le recul, mais qui n'était pas dénué d'intensité à l'époque. Est-ce que vous avez aussi ressenti ce frisson d'aventure avec cette expérience en immersion, où vous deviez aussi jongler avec avec l'ennui, très probablement, avec le temps qui passe ?
L'ennui, la fatigue, beaucoup.
La fatigue,
ça se voit beaucoup plus à Paris qu'à Londres, oui. D'ailleurs. Dans le livre d'Orwell. Oui. Oui, alors c'est vrai et c'est tout à fait exact. Et je dois dire que c'est la seule façon dont j'aime pratiquer mon métier. C'est-à-dire, si moi il n'y a pas un peu d'aventure, ça ne m'intéresse pas. Et donc, je ne suivrai pas l'Assemblée nationale, bien que pour certains ce soit terre d'aventure, c'est sûr, mais pas pour moi. La vie politique ne me tente pas comme journaliste, en tout cas pour la suivre. Ce que j'aime, c'est me balancer dans une situation et la vivre comme ça. Et je dois dire que pour faire ce livre, il y a eu ça. Je ne peux pas vous donner le plaisir que j'ai eu à inventer mon CV, c'est-à-dire et alors je vais raconter que j'étais avec telle personne, parce que vous êtes obligé un peu de vous inventer une vie, donc j'habitais à côté de Paris, où est-ce que j'aurais habité, etc. Tout ça, ça ne m'a servi à rien, je vous rassure tout de suite, personne n'était intéressé par savoir où j'habitais avant et avec qui. Mais en tout cas, moi, j'avais vraiment pris ça à cœur, mais néanmoins, j'avais fait très attention, parce que je ne voulais pas qu'on puisse penser, et ça c'est vrai dans tous mes reportages, qu'on se déguise, c'est-à-dire par exemple. Donc je ne voulais pas dire, bon ben attendez, je vais aller dans le milieu de femme de ménage, comment je vais m'habiller? Je me suis toujours habillée de la même façon que j'aille là, en Ukraine, en Afghanistan, sur les quais de Ouistreham, ici avec vous. Je n'ai pas de déguisement, entre guillemets, de véritable déguisement de vestimentaire, en tout cas de cette façon-là. Et ça, j'aurais trouvé choquant de dire. Et je ne vous cache pas que j'étais toujours la moins bien habillée. Donc ça, peut-être ça aurait pu me servir de leçon. Mais y avait ça. La seule chose que j'avais changée, c'était la couleur de mes cheveux, en me disant, ça, comme c'était assez proche de cette prise d'otage, je me suis dit, il ne faut pas que, mettons un petit changement. Et j'avais été très choquée parce que je raconte ça à une des rares personnes à qui je racontais cette expérience et je lui dis voilà, bon ben je vais me changer la couleur des cheveux voilà pour cette expérience-là, pour pas que les gens me reconnaissent. Bon. Et elle me dit ah ouais, tu vas faire un truc sur les femmes de ménage, écoute, t'as qu'à te couper les cheveux très courts et te teindre en noir. J'ai dit mais pourquoi? Non, mais c'est un milieu brutal. Je dis mais alors vraiment. Et donc, j'ai choisi blonde en me disant, blond, dans l'imaginaire, en tout cas le nôtre collectif, ça ne peut pas être moins bien. Donc, c'est comme ça. Hein. Et donc, je suis restée blonde. Voilà. Mais et c'est vrai que ça, c'était une de mes lignes rouges. L'autre ligne rouge, c'était je voulais raconter le travail, donc la difficulté à trouver du travail, la difficulté à travailler. Et donc, je n'ai pas cherché à rencontrer les gens chez eux, par exemple. Donc à ne pas, je voulais pas m'introduire dans des maisons en disant bon ben les gens vont dire après qui est-ce que j'ai invité, je savais pas qui elle savait. Bon, donc j'avais mes petites lignes rouges, mais le côté aventure, c'est vrai, existait.
Et le côté aussi romancier, vous êtes fait romancière de vous-même, comme la notion de légende, s'inventer une légende, on s'invente.
Alors des gens moins bien intentionnés que vous m'ont dit agent secret, bon ça peut-être. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté-là.
Côté de l'écrivain.
Oui, mais c'est...
Invention d'une fiction, mais la fiction de soi.
C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a eu ce côté qui, moi, ne me déplaisait pas, en tout cas.
Alors, il y a une notion très importante chez Orwell, très importante pour Orwell, c'est la notion de common decency, donc les valeurs morales des citoyens ordinaires. Il n'y a pas d'idéalisation des gens ordinaires chez Orwell, mais plutôt une reconnaissance de leur bon sens. Orwell n'était pas un théoricien, c'est quelqu'un qui partait de l'expérience empirique, comme un journaliste. Est-ce que vous diriez que vous avez pu toucher du doigt ce qu'Orwell appelait la common decency, les valeurs morales des individus? Est-ce que c'est ça que vous êtes allé chercher aussi?
Je ne suis pas spécialement allé le chercher, mais c'est frappant. Moi, je n'ai pas pensé à ça en le faisant, mais c'est vrai que c'est très... Ça imprègne beaucoup les choses, c'est-à-dire que ça m'avait déjà frappé beaucoup de plusieurs fois en faisant des reportages, par exemple. Je parle souvent aux gens de combien ils gagnent, combien ils aimeraient gagner, quel est leur comment ça se passe pour eux. Et très souvent, les gens me disent ouais, voilà, on n'a pas assez, j'arrive pas à boucler le mois, etc., etc. Et quand je leur demande « Mais combien vous voudriez gagner ?» Alors, vous, le salaire idéal, ce serait quoi? Et je suis toujours très étonnée du salaire assez bas qu'ils donnent. Assez bas. C'est-à-dire, en général, on me dit « Ah, oh, j'aimerais bien gagner 2000, 2005. » C'est-à-dire que personne ne me dit 10 000 ou... c'est toujours quelque chose à portée de main, de dépenses, de... Et alors je leur dis, mais 2005, ouais, là, ce serait bien. Et puis, il y a toujours un petit commentaire derrière. Et pour moi, il y a un type qui m'avait... J'avais adoré sa réponse. Il réfléchit et me dit 2000. Puis il réfléchit encore un peu. Il dit, bon, mettons 2005. Et je lui dis, et pas plus? Et il me dit, bah non, je vais quand même pas manger des steaks en or. Et c'était, pour moi, c'est ça.
Le bon sens.
Un espèce de bon sens.
Raisonnable.
Oui. Gagner de l'argent est une chose, le dépenser en est une autre. Et il y avait cette espèce de manière de voir les choses, le monde, que je trouvais très fort. Autre chose, par exemple, quand j'ai fait cette expérience avec Ken Wistreham, on nettoie les toilettes sur le ferry. Donc, vous voyez l'ambiance, pas agréable. Un ferry qui sort d'avoir fait une traversée en mer, les gens malades, les toilettes dégoûtantes, etc. Et donc, on récure. Et donc, on se parle de toilette à toilette avec ma collègue. Et donc, j'essayais de poser des petites questions de temps en temps. Et alors, vous, pourquoi, toi... Enfin, on se tutoyait, d'ailleurs. Toi, pourquoi tu fais ce métier, etc. Et la femme me répond, parce que j'ai de l'ambition. Et voilà, comme vous, j'ai eu un petit rire. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle dit, parce que je veux me lancer, là, je suis chez moi, mais je pense qu'il faut que je me remette à travailler. Donc, voilà. Et il y a à chaque fois cette manière de voir les choses. Et au fond, j'ai rencontré autant de tirs au flanc, de gens qui avaient de l'ambition, d'honnêtes travailleurs, de choses comme ça, que dans la presse, finalement. Et c'est des bonnes leçons. Ça m'a bien servi de leçon, à vrai dire. Et pour moi, c'est ça, la common decency de... Oui. D'Orwell, c'est-à-dire c'est cette manière de voir le monde qui est à ma hauteur, ni plus ni moins, et avec ce courage quotidien, oui, mais cette manière d'affronter quotidiennement les choses, voilà, on y va parce que sans se plaindre. Vous voyez, quand on est journaliste et qu'on tend son micro, j'aurais fait ce même reportage comme ça en disant voilà, bonjour, j'essaie de voir la condition même de ménage. Automatiquement, vous suscitez, malgré vous d'ailleurs, non pas la vie quotidienne, mais la récrimination, la plainte, à raison, hein, souvent d'ailleurs. On va vous parler des difficultés, on ne va pas vous parler de cette manière d'embrasser la vie dans ce qu'elle a de mieux, de moins bien, mais qu'il faut la. Voilà, c'est pas optionnel. Et ça, c'est très fort. Et je pense que c'est ça qu'il veut dire aussi.
Ce que vous dites renvoie à une idée très, très importante, c'est l'idée de se laisser surprendre. Et Orwell le disait aussi, le rôle du hasard, oui. Et accepter de se tromper. Ça, vous le dites dans la préface de votre recueil de chroniques « Ici et ailleurs ». Vous écrivez « Ma vie est restée celle d'un reporter. Partir, revenir, repartir. Je crains que ce ne soit désormais définitif. Incurable serait peut-être plus juste. C'est une des choses que j'ai appris à chérir dans mon métier. Écrire sur le vivant, rendre compte des palpitations et du souffle d'une époque sans savoir où elle nous mènera. » Se tromper fait partie de l'exercice.
Oui, et c'est une des choses très compliquées et à la fois pour moi la plus merveilleuse dans mon métier à moi. C'est-à-dire, c'est vous vous lancez dans quelque chose, vous allez couvrir. Alors, on parlait de Mayotte, on parle de l'Ukraine, on parle de trafic de drogue en Guyane, on parle de toutes ces choses-là. C'est-à-dire, vous vous lancez dans un sujet, dans un reportage, et vous ne savez pas qui va gagner la guerre en Ukraine, que va-t-il se passer à Gaza, comment vont être résolus les problèmes de trafic de drogue. Vous ne le savez pas. Et donc, vous êtes le funambule sur un fil à avancer sans connaître la fin du film. Et évidemment, toutes les erreurs sont à porter de vos pas. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est écrire sur quelque chose en mouvement, quelque chose dont on ne connaît pas la fin. Il y a une grande différence avec le travail d'historien qui est celle-là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas la fin de la guerre, on ne sait pas la fin d'une problématique, on ne sait pas la fin d'une élection. Et dans ce bouquin, ici et ailleurs, je raconte la première campagne à la présidentielle d'Emmanuel Macron. Et je la raconte non pas du côté d'Emmanuel Macron, que je n'interviewe absolument pas, mais des électeurs. C'est-à-dire qui va voter Macron pendant cette campagne et qu'est-ce qu'on en espère ? C'est fascinant. Et à la fois, il y a un espèce d'énorme élan populaire à l'époque. D'ailleurs, il a été élu, disant, voilà, ça va nous changer la vie. Peut-être que si, peut-être que ça. Donc, l'éditeur, au moment de republier l'année dernière ce bouquin, m'a dit, bon, ça, t'es sûr qu'il faut le mettre ? Et j'ai dit, oui, il faut le mettre. Il faut le mettre parce que c'est la photographie de la France à un moment donné. Ce n'est pas en le cachant qu'on change les choses. Moi, ça me plaît, cette manière qu'on peut avoir de trébucher ou en tout cas de raconter les choses telles qu'elles sont à un moment qui n'est plus vrai le lendemain ou le surlendemain. Et c'est vrai que ces expériences-là, comme celle d'Orwell, elles portent à ça, à trébucher, à se tromper, à tâtonner. Et pour moi, ça fait partie des choses. Et le raconter fait partie de rendre notre métier un peu plus honnête, peut-être.
Dans l'avant-propos de votre autre recueil de chroniques, en France, vous racontez qu'un de vos voisins de train, à qui vous avez indiqué votre profession de journaliste, vous rétorque « Vous n'en avez pas marre de faire les chiens écrasés ?» Ce à quoi vous avez envie de lui répondre que tous les chiens écrasés sont des humains écrasés. À quel moment, selon vous, passe-t-on du fait divers au fait de société ? Là, bien sûr, je pense à l'affaire Doutreau que vous avez suivie et vous en avez tiré un livre, La Méprise, puisqu'il y a eu méprise, puisque c'est aussi en large part une affaire d'erreur judiciaire. Est-ce que le fait divers vous intéresse ou seulement quand il prend une forme de généralité et quand il devient politique ?
Alors, moi, je ne dirais pas politique à ce sens-là. Moi, ce qui m'intéresse dans un fait divers, ça a été aussi le cas dans L'Inconnu de la Poste, c'est quand un fait divers, il y a aussi une dimension de regarder comment fonctionnent nos institutions. C'est-à-dire, c'est pas simplement de dire « Ah, il y a du sang sur le plancher, c'est terrible ». Ce qui m'intéresse, c'est raconter un fait divers et raconter comment des institutions, une société s'en empare et ce qu'elle en fait. Et en ce sens, c'est politique, mais ça n'est pas politicien, pour dire les choses. Et c'est moins un fait de société qu'une manière dont la société a de s'emparer de ces choses-là. Comment la police peut ou ne se débrouille d'une affaire, comment elle ne s'en débrouille pas, comment les gendarmes ont fait leur enquête, comment on s'est trompé ou pas trompé. Et ça, pour moi, fait intimement partie des choses. En ce sens, oui, les faits divers m'intéressent. Si c'est uniquement une affaire, voilà, de qui n'a pas cette dimension, en tout cas, c'est moins mon sujet. Moi, cette dimension-là m'intéresse aussi, m'intéresse beaucoup. Et je pense que ça en fait partie.
L'inconnu de la Poste, me semble-t-il, raconte un fait divers, mais aussi, que je vais résumer très, très brièvement, mais aussi le portrait d'un jeune homme au destin brisé, Gérald Thomassin, et puis aussi la vie d'une communauté. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vous, alors pas en immersion, mais là, dedans. Vous ne refaites pas l'enquête. Vous ne refaites pas l'enquête, mais vous allez voir les conséquences de cette affaire assez hors norme sur une communauté d'individus, sur un territoire aussi.
C'est ça.
C'est les échos. Cette affaire, elle a donc eu lieu dans l'Ain en 2008. C'est donc une jeune femme, Catherine Burgot, assassinée, 28 coups de couteau, dans une toute petite commune, Montréal-Lacluse, 3500 habitants, près de Bourg-en-Bresse, donc on est entre Lyon et Genève. Une victime sans histoire en apparence.
Postière, hein, cela dit, elle tient le bureau de poste.
Postière, c'est le bureau de poste. Le caractère incommensurable de la violence du crime, opposé à la médiocrité du butin, 2 500 euros volés, même si on ne peut pas faire de lien de causalité directe, elle n'a pas forcément été tuée pour le vol. Cela reste à ce jour une affaire non résolue.
Si elle est résolue maintenant.
Elle est résolue maintenant. Eh bien voilà, nous avons le scoop que nous attendions.
Si elle est résolue.
Très bien. Alors on va en parler. La première personne accusée, c'était donc Gérald Thomassin. Donc cet acteur qui avait joué à l'âge de 16 ans dans Le Petit Criminel de Doyon, qui a obtenu un César pour cela, puis ensuite, lui aussi, il est tombé dans la déchéance. Il se trouvait là, dans le village, il a été accusé. Il se trouve que ce n'était pas lui. Le deuxième accusé, Mamadou Diallo, dont le procès a lieu après la parution de votre livre, a été déclaré non coupable du meurtre, mais coupable de vol.
Non, il y a eu un deuxième procès.
D'accord.
Voilà. Et il a été condamné pour meurtre.
Il a été condamné pour meurtre, oui. Parce que quelque chose de tout à fait...
Deux ans.
D'accord. Quelque chose de tout à fait incroyable, c'est que son avocate s'est présentée, a rappelé qu'elle avait été l'avocate du procès en révision d'Omar Haddad. Et elle a toisé chacun des jurés en leur disant « L'affaire Omar Haddad est la plus grande erreur judiciaire du XXe siècle. Celle que vous êtes en position de juger pourrait être la seconde. » Et là, au premier procès, il est acquitté, faute de preuves. Mais au deuxième...
Moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était cette communauté villageoise, un petit village, 3500 habitants, comme vous le rappeliez, et la postière, qui est la postière, donc un personnage essentiel dans ce petit village. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distributeur automatique, donc c'est là où on peut tirer de l'argent liquide, on va chercher ses colis. Enfin, c'est un des lieux de sociabilité du village. Il y a un certain nombre de retraités. C'est une postière qui est l'enfant du pays. Elle est née là, elle est la fille du secrétaire de mairie, donc qui a une position sociale importante. Et elle se déplace chez les personnes âgées pour leur apporter l'argent. Enfin, c'est une personnalité dans le village. Et je dirais même presque plus une petite princesse. C'est-à-dire qu'elle est... C'est une belle femme. Et c'est... elle s'appelle Catherine Burgot. Et c'est Catherine Burgot, c'est un peu le... Elle est jolie, on la respecte. C'est la fille de l'adjoint au maire, secrétaire de mairie. Donc, elle a un petit rôle social. Donc c'est quelqu'un qui pèse. Et elle est à 4 jours de Noël, elle est assassinée dans le bureau de poste et on dérobe cet argent. Et donc, il n'y a pas de caméra de surveillance au bureau de poste, c'est un tout petit village, c'est des horaires assez particuliers, elle est seule dans le bureau de poste, donc il n'y a pas d'autres employés en même temps. Et donc, chacun comprend très vite que ça ne peut être que quelqu'un qui connaît ce village. Et donc, on se regarde, tout le monde se regarde en disant « lequel d'entre nous l'a tué ?» Et assez vite, les soupçons se portent sur ce jeune garçon, ce jeune acteur, Gérald Thomassin, qui s'est installé dans ce village pour se mettre au vert. Alors, c'est un enfant, on disait de la DAS, mais qui est maintenant de l'ASE, placé en foyer, placé en famille d'accueil, une enfance complètement déglinguée, et qui a été repéré pour un tournage par un réalisateur qui le fait tourner dans un film qui s'appelle Le Petit Criminel, et pour lequel il éclate à l'écran. Et donc, il devient acteur, alors que c'est un gamin perdu. Et donc, pour tout le monde, c'est ça y est, il va s'en sortir grâce à ça. Et en fait, évidemment, il s'en sort pas si bien que ça. Il est un peu toxicomane, il est un peu alcoolique, mais il continue à tourner. Hein. Il fait 2-3 rôles par an, donc il est vraiment acteur, mais un acteur un peu un pied sur le tapis rouge, un pied dans le ruisseau quand même. Hein. Donc il est un peu des deux. Et donc il arrive dans ce village et c'est l'étranger au village. Donc ici à Bordeaux, je ne sais pas, à Paris en tout cas, quand on s'assoit sur un banc avec une canette et un grand chien à côté, je dis pas que tout le monde s'en fiche, mais enfin on connaît, c'est une figure qu'on connaît. À Montréal-la-Cluse, on ne connaît pas. Ou en tout cas, ça signifie les gens dangereux arrivent au village. Ce type, comme ça, qui parle fort, qui a une canette, etc. On ne l'a jamais vu ici dans un village, comment c'est possible, etc. Et donc, il a le malheur d'habiter également en face de la poste, et donc les soupçons se portent sur lui. Et donc, il fait 4 ans de détention provisoire quand même, etc. Et dans la poste, il y a de l'ADN qui est trouvé, qui n'est pas le sien. Et grâce à ça, il échappe au procès, et cet ADN finit par matcher, et c'est ce Mamadou Diallo qui est finalement condamné parce que c'est son ADN. Et donc voilà, donc c'est cette histoire. Et ce qui m'intéressait, c'est ça, c'est comment, dans un petit village, ces deux mondes, l'un en face de l'autre, qui se répondent, et j'ai longuement parlé et côtoyé le père de la victime, qui était ce fameux adjoint au maire, secrétaire de mairie, qui s'était donné pour but de venger sa fille. Et donc, dans sa chambre, il avait mis partout « Thomasin, je vais te tuer, moi aussi, je vais t'envoyer la guillotine, etc. » C'était devenu son obsession. Et quand ce jeune, l'ADN match et que ce Mamadou Diallo est finalement arrêté, il doit changer de logiciel. Mm. Et ça, c'est un moment très fort. C'est-à-dire que tout à coup, il se dit « Mais alors, c'est pas Thomasin. » Alors, je dis, bah, vous voyez, c'est pas lui, puisque l'autre a été arrêté, c'est son ADN, son sang est mélangé à celui de votre fille, donc c'est vraiment lui. Et il y a là, l'enquête a duré une dizaine d'années, donc pendant 10 ans, il avait Thomasin dans la tête. C'était lui, je vais me venger, c'est le but de ma vie, c'est un homme assez âgé, je ne veux pas mourir avant de le voir condamné. Et finalement, il doit rouvrir le piège et les laisser s'échapper. Et j'avais l'impression de lire dans ses yeux. C'était un moment très, très important. Et il me dit, mais alors qu'est-ce que je vais devenir? Je lui dis, bah, c'est pas lui, ce sera le criminel, c'est un autre. Et il a cette phrase comme ça, il disait, c'est moins bien. Et je veux bien le croire, je veux bien le croire que tout à coup... réussir à faire ça, et j'ai beaucoup de respect pour cet homme parce qu'il l'a fait. Il a dit, bon, ben, c'est pas Thomasin, mais c'est très difficile à faire. Dans le village, certains n'ont pas eu cette faculté, et à Montréal-la-Cluse, certains pensent toujours que c'est Thomasin.
Ouais. Mm-hmm.
Et donc, c'était une expérience assez forte sur les gens confrontés tout à coup à une vérité qu'il faut accepter. Qu'est-ce que je fais? Oui, non.
Et puis on est toujours déçu finalement par la vérité qui est souvent médiocre. Donc là, l'objet du meurtre était le vol. Et puis finalement, il y a cette insatisfaction parce que c'est fini en fait. Peut-être qu'on préfère aussi que l'affaire soit toujours en cours et qu'on ait toujours des espoirs que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de décevant, déceptif dans la résolution.
Oui, toujours. Oui, mais c'est peut-être. Et c'est... moi, comme expérience humaine, c'était très fort parce que je veux pas dire c'est moi qui le lui ai dit,
oui.
Si. Et je le revois assis dans sa chambre avec ses affiches appelant à guillotiner Thomasin. Mm. Et je le voyais qu'il les regardait, qu'il se disait qu'est-ce que je les enlève pas. Et c'est des moments.
Parce qu'il s'était construit aussi sa fiction,
C'était construit son histoire.
Sa vengeance, son histoire, oui. C'est ça. Ouais. Il me semble que vous avez également travaillé plus personnellement, presque de manière un peu intime, sur Thomasin lui-même. Il me semble que le livre est aussi un portrait de cet acteur, une sorte d'ange déchu, pour essayer de le comprendre et de comprendre cette sorte d'acte manqué, puisque à la fin, il disparaît, il ne se présente pas à son procès en révision qui va donner lieu à un non-lieu. Et là, vous êtes présente, vous l'attendez, vous lui téléphonez, vous espérez qu'il vienne, et il ne vient pas. Là aussi, pour vous, il y a eu quelque chose de profondément décevant.
C'est pas décevant, c'est-à-dire en fait, bon, je vous fais une petite confidence, je suis très superstitieuse. Et donc, à un moment, on se dit, est-ce qu'il y a un destin? Est-ce qu'il y a une... comme ça, est-ce qu'on marche vers quelque chose? C'est une sorte d'interrogation. Et c'est vrai que Thomassin, ça y est, l'ADN avait matché, il est convoqué chez le juge pour lui signifier qu'il a un non-lieu, c'est-à-dire qu'il est innocenté. Donc c'est un rendez-vous très, très grave, très important, qu'il attendait depuis longtemps. Il avait beaucoup fantasmé dessus. Il s'était dit, alors peut-être, comme j'ai fait 4 ans de prison, peut-être qu'on va me verser des dommages et intérêts. Donc comment je vais les dépenser? Il est toujours un peu à la course à 3 sous. Et donc il s'était dit, voilà, c'était un grand moment pour lui. Et donc il m'appelle, il me dit, voilà, écoute, le rendez-vous était à Lyon, l'affaire était à l'instruction à Lyon. Et lui habitait à ce moment-là Rochefort. Et donc, il faut qu'il fasse le trajet. Il me dit, écoute, je suis embêté, mais je n'ai pas d'argent, là. Est-ce que tu peux m'envoyer le billet de train? Alors, je lui dis, je peux t'envoyer l'argent du billet de train. Et donc, je lui envoie l'argent du billet de train. Évidemment, évidemment, parce que c'est un garçon comme ça, évidemment, il ne le dépense pas, ça. Il passe la soirée à boire avec des amis. Il offre le champagne à tout le monde. Et il prend le train en resquillant. Et donc, il arrive à... Il doit changer à Nantes, dans mon souvenir. Et là, il doit prendre le train pour Lyon, la correspondance pour Lyon. Mais comme vous le savez, le TGV, il faut biper sur le quai et il n'a pas de billet. Donc, il sort de la gare. Les dernières images qu'on a de lui sont celles sur les caméras de surveillance de la gare. Et il disparaît. Donc, il ne se rend pas à cette convocation. Moi, alors, je l'attends à Lyon. On a rendez-vous devant le palais de justice. Je l'attends, l'heure tourne, le magistrat envoie sa greffière qui dit « mais il n'est pas là, personne ne le voit, l'avocat arrive, il n'est pas venu, etc. » Et personne ne l'a revu depuis. Donc c'est une histoire. Et donc il y a une enquête qui est faite à Nantes, pour l'instant, sur recherche de personnes disparues. Mais personne ne l'a jamais revu. Et je pense qu'il est mort de sa vie, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le train, il a dû faire du stop, sur qui il est tombé, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a cette espèce de destin comme ça qui part en fumée et qui me semblait... c'est terrible, hein, parce que c'est quelqu'un auquel je m'étais attachée, bien sûr. La première fois qu'il était en détention, la première fois où j'aurais dû le rencontrer. Et ensuite, il sort... Et il va pas fort, etc. Donc on lui dit, bon, vous allez faire un petit séjour en hôpital psychiatrique. Donc il arrive à l'hôpital psychiatrique. Et donc je le rencontre dans un hôpital psychiatrique à Bordeaux, justement. Et donc je me dis, bon, c'est peut-être un petit peu gênant. Lui était ravi. Oh, c'est super ici. Regarde, j'ai une chambre individuelle. C'est des gosses nés en institution. Donc il était en terrain connu. Et il me dit, bon, on va aller voir à la cantine. C'est la première fois que je le voyais. On va aller voir à la cantine, qu'est-ce qu'on a au menu? Je me dis, ça ne doit pas être fameux, mais bon. Et donc, on va le voir, il me dit, ah, c'est formidable. Ah, mais je crois que c'est le même traiteur, dit-il, qu'à la prison, qu'à la détention, parce que c'est le même genre de plat. Alors, c'est super. Lui, très content. Hein. Et donc, tout était comme ça. Elle me dit, bon, là, en attendant, avant qu'on discute, on va regarder quelques images de... Il y a un film que j'adore, on va s'asseoir sur un banc de l'hôpital psychiatrique et regarder L'Exorciste. Et donc, on regarde L'Exorciste. Vous voyez, le personnage un peu fantasque, comme ça, un gamin qui a passé son enfance maltraité dans des familles d'accueil et ensuite dans un foyer de l'ASE, et qui ensuite est tombé dans le milieu du cinéma, qui est aussi un milieu hors sol, hein, c'est pas la vie de tous les jours. Et donc, qui, en fait, ne sait pas trop comment se comporter avec en temps normal. Donc, un hôpital psychiatrique, ça lui allait tout à fait bien. Donc il était très content. Il dit, regarde, il y a des gens. Lui, il a l'air sympa. Enfin, c'était en terrain ami.
vous vous êtes attaché à lui, visiblement, vous le vous
oui, oui, je l'aime beaucoup. Oui.
Est-ce que là, quand vous lui donnez l'argent du billet...
Je l'envoie par...
Voilà. Est-ce que là, vous sortez de votre rôle de journaliste? Est-ce que vous êtes Florence Aubenas, individu, citoyenne, qui a voilà, une relation effectivement amicale pour cet individu? Ou est-ce que vous êtes toujours, ou est-ce que vous êtes Florence Aubenas, l'écrivaine qui va écrire un livre et son portrait? Est-ce que là vous êtes entre plusieurs rôles?
Alors c'est vrai que c'est une question que je me pose toujours et c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire que comme vous l'avez compris, moi je ne traite pas avec des chefs d'entreprise, des hommes politiques, des choses comme ça. Donc, je suis toujours avec des gens comme ça, un peu à côté, enfin, des gens comme vous et moi, en fait, dans la vie quotidienne. Et donc, là, vous êtes obligé, entre guillemets, de traiter entre êtres humains. C'est-à-dire qu'on on est bien sûr journaliste, si je me présente comme journaliste, il est bien sûr là parce qu'il est pris dans une affaire judiciaire, mais à la fois. On ne peut pas être traité de ça en se vouvoyant pendant... On s'est connus pendant 6 ans. Et c'est vrai là, mais c'est vrai aussi... Je vous donne un autre exemple, plus parlant peut-être. Je vous parlais de Mayotte. J'y pense parce que c'était il y a juste un an. Et donc, il y avait ce cyclone. Et donc, vous êtes face à des gens qui vivent le pire moment de leur histoire. Ils ont tout perdu. La maison est par terre. Tout est détruit, etc. Et vous arrivez comme journaliste, débarquant de Paris, toute rose, voilà, avec votre petite bouteille d'eau, votre téléphone et une batterie qui marche, il n'y a pas d'électricité. Donc, bonjour, comment ça va? Alors, ça tombe mal, hein, ça ne va pas. Donc, vous êtes obligé d'être dans quelque chose qui n'est pas conventionnel comme relation. Le gars, il vous dit, voilà, j'ai plus rien, j'ai plus... Tcha. Et puis, il voit que vous avez votre téléphone qui est branché sur votre petite batterie portative qui est chargée à 100%, etc. Il vous dit, dites-moi, j'ai pas de téléphone là, est-ce que je peux utiliser votre batterie? Alors, vous êtes journaliste, vous dites, bah non, moi, je suis journaliste, s'il vous plaît, laissez ma batterie tranquille, etc. Je pense qu'à un moment, il faut partager. On peut pas être dans des rôles conventionnels quand on est face à des gens qui sont dans des problèmes, des choses inextricables, etc. Donc, c'est sûr que je suis parfois critiquée, d'ailleurs, par mes confrères, pour cette raison-là. Je dis, oui, c'est vrai que je prête ma batterie quand je vais à Mayotte. C'est vrai que j'ai ma bouteille d'eau. Écoutez, j'ai pas d'eau. Est-ce que vous... Oui, bien sûr que je donne ma bouteille d'eau. Oui, bien sûr que si la personne m'avait dit, écoutez... Je voudrais aller manger quelque chose avec mon fils. Bien sûr que j'aurais, comme un citoyen dans le métro ou ailleurs, donne quelque chose. C'est tout simplement une relation humaine. Et je pense qu'à certains moments, ça m'est arrivé. Et c'est une des premières choses qui m'a frappée quand j'ai commencé à travailler sur des terrains violents. C'est comment on fait. Je me souviens d'une interview en Afrique où j'interviewe, c'était au Rwanda, donc juste après le génocide, et on est dans une maison coupée du monde, etc. Je suis en voiture, plus personne n'a de voiture, on a de l'essence, plus personne n'a d'essence. Vous êtes toujours dans cette position de journaliste avec quelque chose en plus, hein, que n'ont pas les gens en face de vous. Et j'interviewe quelqu'un, etc., puis on entend des gémissements dans la pièce à côté. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Le type, très gêné, me dit « Ouais, ça vous gêne pour l'interview ?» Mais j'en étais malade. Je dis « Non, ça ne me gêne pas pour l'interview, ça me gêne pour la personne qui j'ai mis. » Et donc, il me dit « C'est ma femme qui est en train d'accoucher. » Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites « Bon, bah, écoutez, monsieur, moi, je dois finir mon interview, envoyer mon papier, qu'elle se débrouille, etc. » Non. Donc, je fais le choix de dire « Écoutez, on va la mettre dans ma voiture, on va l'amener à un endroit où elle va accoucher plus... s'il y a un hôpital dans le coin ou des choses comme ça. Donc à un moment, je pense qu'on est un peu obligé de partager. Voilà. Et ce partage, bien sûr, qui peut être mal compris, mal interprété. Ça a été mal interprété. Des gens de Montréal-Lacluse m'ont dit « Comment vous payez des billets de train comme ça à des gens ?» Je dis « Oui, j'ai aussi invité M. Burgot, donc le père de cette victime, Catherine Burgot, qui a été assassinée. Je l'ai invité au restaurant. Alors, est-ce que je ne dois pas l'inviter au restaurant ?» On va dîner, ça me fait plaisir de l'inviter. Voilà, c'est un vieux monsieur, il sort pas si souvent. Moi, je suis ravie de l'inviter au restaurant. Est-ce que je dois dire non, attendez, on va faire deux notes? Il y a un moment où je pense qu'il faut faire, entre guillemets, plus simple et plus... On est entre êtres humains, au bout du compte. Mais c'est vrai que qu'à chaque fois, c'est compliqué.
Parce qu'il n'y a pas de dédoublement de personnalité. Un journaliste est d'abord un homme, une femme, il ne peut pas l'oublier. Finalement, c'est une leçon à tirer de l'immersion. L'immersion serait simplement l'autre nom du journalisme. Simplement, en immersion, vous ne vous présentez pas comme journaliste, mais finalement...
Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, je vous dis, je n'inviterai pas à déjeuner... Comment s'appelle déjà le nouveau Premier ministre ? Enfin, lui, on s'y perd. Hein. Non, je ne l'inviterai pas à déjeuner. Et voilà, c'est d'autres types de relations, des gens qui sont là, on est là, et il est bien entendu qu'on est tous les deux là pour des raisons professionnelles, parce qu'on est entre professionnels, que lui répond parce qu'il est Premier ministre, et moi je l'interroge parce que je suis journaliste. Là, on est entre personnes ayant fonction sociale. Quand je suis avec Monsieur Burgot, quand je suis avec Thomasin, quand je suis dans une baraque en planche au Rwanda, on est aussi là comme être humain. On n'est pas simplement là avec le maire, avec le préfet. Je me conduis aussi autrement. Mais je pense qu'à certains moments, il faut s'oublier.
Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous faites votre la notion de journalisme subjectif à la première personne? Est-ce que ça, ce sont des...
Alors, j'ai écrit Ked Wisterm comme ça. J'écrirai pas tous mes livres comme ça. D'ailleurs, la Côte de la Poste n'est pas écrit à la première personne. Parce que je pensais, justement, pour une histoire comme celle-là, où il y allait de dire, voilà, cette personne vous est présentée comme coupable. Moi, j'ai fait le livre, et ça m'intéressait, parce que je pensais que le dossier judiciaire ne tenait pas et que, la justice s'était embrouillée les pinceaux. Mais je ne voulais pas qu'on me croit parce que c'est moi et que j'écris un livre et qu'il y a un principe d'autorité. Je voulais que chacun se fasse son idée. Donc, l'écrire à la première personne m'aurait semblé trop...
Militant, presque.
Enfin, oui, trop intrusif.
Idéologique.
Trop forcer les gens, d'essayer de les prendre par la main et de leur dire, regardez, comme j'ai raison, croyez-moi sur parole. Je voulais que chacun ait droit à la parole. Thomasin a droit à la parole, le père de la victime a droit à la parole, les amis de Mamadou Diallo ont droit à la parole. D'ailleurs, certains pensent toujours qu'il n'a pas commis ce crime. Enfin, que chacun défende ce qu'il a à dire. C'était la grande difficulté pour écrire le livre. Dans Ked Wisterm, c'est sûr que ça suit mon parcours à moi, et donc je l'ai écrit à la première personne. Quant à la subjectivité, je pense que ce serait un peu faux de dire qu'elle n'existe pas, elle existe toujours. Alors, on peut la contenir, on peut l'aménager, etc. Mais ne fût-ce que parce qu'on porte les yeux sur telle personne et pas telle autre, ne fût-ce parce qu'on retient telle phrase et pas telle autre. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est souvent reprochée aux journalistes, y compris à moi d'ailleurs. Vous allez interviewer quelqu'un pendant une heure, garder deux phrases, et on vous dit, mais madame, j'ai vu pendant une heure, vous gardez que ce qui vous intéresse, etc. etc. Donc, c'est toujours des négociations et des choses très complexes avec les gens que vous interviewez. Et donc, c'est forcément, je pense, subjectif. Forcément, ce serait... Si vous voulez, vous allez... on se pose moins la question, d'ailleurs, pour un photographe, assez souvent, un photographe va faire votre portrait. Vous allez dire, pourquoi on a gardé une photo où je fais la gueule, ou une photo où je souris, ou une photo... voilà. Mais le journaliste, il est de la même façon, il vous tend un miroir, et parfois, l'image que vous y voyez, vous ne vous y reconnaissez pas, pour diverses raisons. On est confronté à ça sans cesse. C'est un des grands problèmes du journaliste et les gens qui lui font confiance.
Pour conclure, j'aimerais revenir sur une notion de droit qui me semble extrêmement importante, le bénéfice du doute qui doit bénéficier à l'accusé. J'ai rappelé que dans son premier procès, Mamadou Diallo avait été
acquitté bien sûr.
Avec comme horizon la possibilité d'une erreur judiciaire qu'il fallait éviter. L'affaire d'Outreau, donc cette affaire d'inceste massif, a été pour une part une affaire d'erreur judiciaire, la méprise. C'est le titre de votre livre. Est-ce que c'est une notion sur laquelle vous réfléchissez? Parce qu'il me semble que ça renvoie à beaucoup de choses qu'on vient de se dire. L'importance du hasard, de se laisser dépasser par ce qu'on ne connaît pas, accepter de se tromper, accepter de découvrir ce à quoi on ne s'attendait pas.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Vous le faites tous. Je suis sûre qu'ici, personne n'a... n'est sur les réseaux sociaux, on est tous d'accord. Personne n'y est, mais on les regarde tous. Enfin, bon. Et donc, c'est un endroit qui peut être celui très agréable, celui d'information et celui de lynchage. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette présomption d'innocence, les réseaux sociaux ne la mettent quand même considérablement à mal régulièrement. C'est-à-dire que tout le monde va se ruer sur quelqu'un. Et c'est vrai que plus que jamais, c'est quelque chose à soigner aujourd'hui.
À protéger.
À protéger, hein. Oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut se retrouver en but à d'énormes problèmes, alors que... on ne les mérite pas forcément. Et parfois oui, parfois non.
Nous sommes partis d'Orwell et nous en arrivons à des problématiques et des enjeux très, très contemporains. Merci beaucoup pour cet échange, pour cette belle leçon de journalisme et cette belle leçon de vie. Merci Florence.
Merci à vous.